Renaud Gerveau, bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, c'est la rentrée au Palais des Beaux-Arts de Lille. Une rentrée avec, bien sûr, comme chaque musée, on va dire, une nouvelle présentation d'exposition à prévoir bientôt, et puis des œuvres qui viennent de rentrer, des nouveautés.
Oui, oui, c'est ça. Nous avons à la fois une grande saison autour d'un peintre du 19e siècle, Jean-François Millet, le peintre de l'Angélus. Voilà, donc la première fois depuis 50 ans qu'on verra rassembler un ensemble de chefs-d'œuvre de ce peintre. Donc l'Angélus que je viens de citer, mais les glaneuses, l'homme à la houe, des tableaux qui viennent du Japon, des États-Unis et de toute l'Europe. Voilà, et c'est le grand événement de la rentrée. Mais un musée sont aussi des collections, comme vous l'avez dit, et des œuvres qui entrent. Des acquisitions qui sont en l'occurrence des donations. Et donc on a un très beau tableau de Geneviève Haas, une artiste contemporaine française, voilà, qui a un tableau d'un bleu profond. Et puis une sculpture de la fin du 19e siècle d'Alphonse Cordonnier, un sculpteur lillois. Il fait une œuvre très étonnante d'une tentation de Saint-Antoine, donc un malheureux Saint-Antoine qui est entouré de jeunes femmes nues et voilà, qui essaie de le tenter. Voilà, donc un ensemble très très... d'œuvres très différentes, voilà, mais qui viennent enrichir les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille.
Alors c'est vrai que cette dernière œuvre est aussi intéressante par le fait qu'elle est composée de deux matériaux différents.
Oui, c'est une sculpture qui utilise à la fois le bois et le marbre. Alors le marbre est réservé aux jeunes femmes voilà, qui sont dans un blanc, qui sont nues et d'un blanc, un corps blanc et nacré en marbre. Et puis le Saint-Antoine, dont tout le corps est en bois, un bois ciré sombre. Voilà, et ce contraste entre les deux matériaux est aussi à l'image voilà, de ces deux mondes, hein, celui de la tentation et celui qui est tenté. Voilà, et c'est une œuvre qui figurait à l'exposition universelle de 1900, l'exposition de sculpture du Grand Palais à Paris.
Une œuvre qui reflète un peu la fin du 19e siècle ?
Oui, une œuvre qui reflète un certain esprit du 19e siècle, entre symbolisme, c'est-à-dire une exploitation des symboles, et puis une forme aussi d'érotisme à peine dissimulé. Voilà. Et donc on fait des œuvres comme ça, un peu échevelées à la fin du 19e siècle, voilà, qui sont entre académisme et puis un style un peu plus enlevé, un peu plus mystérieux. Voilà, oui, c'est typique de cette période.
Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir en la voyant, hein, sur l'exposition Millet. Le rapport entre Millet et l'Amérique vous a intéressé ?
Oui, Jean-François Millet est un immense peintre. Hein, en tout cas, c'est ce que considèrent les historiens d'art. C'est un peintre un peu oublié aujourd'hui. Hein, l'image de l'Angélus, avec sa célébrité, sa reproduction sur toutes les boîtes de chocolat et tous les objets possibles et imaginables, a fait oublier finalement l'essence de son art. Et du coup, on aura cette grande vision rétrospective, mais on a souhaité aussi, pour mettre en lumière sa modernité jusqu'à aujourd'hui, de parler de sa postérité aux États-Unis. Et en fait, sa peinture va être très tôt collectionnée, de son vivant. Des peintres vont venir le voir travailler. Et son style va donc ensuite s'aimer. Ses œuvres elles-mêmes vont être entrées dans les musées américains. Et en fait, l'image des paysans de Millet va devenir l'image en fait, des pionniers américains. Et elle va se diffuser d'abord par la peinture, aussi dans la philosophie transcendantaliste, typiquement américaine, mais où la nature a une place très importante, comme dans l'œuvre de Millet. Et puis ensuite, dans la photographie documentaire des années 30. On aura un très bel ensemble hein, de photographies de Dorothée Allange, Walker Evans, et puis aussi les peintures, Edward Hopper. On aura quand même ce privilège d'avoir une douzaine d'œuvres de Hopper. Hein, c'est quand même des œuvres très difficiles à obtenir. Et enfin le cinéma, hein, qui va aussi être très fortement influencé par Millet depuis les débuts du cinéma, hein, de Griffith, mais en passant par John Ford et en allant jusqu'au cinéaste de la fin du XXe siècle, Terrence Malick, Michael Cimino, Roman Polanski, qui revendiquent tous dans ces films, dans certains films précis comme Les Moissons du Ciel ou Les Portes du Paradis, d'avoir été très très directement influencés par Jean-François Millet. Donc on a choisi cette façon de parler de la modernité de Millet par son influence aux États-Unis.
Alors effectivement, on connaît Millet par un certain nombre de tableaux classiques, on va dire. Est-ce qu'il y a des œuvres qui pourraient nous surprendre ?
Oui, beaucoup d'œuvres, paradoxalement, soit les œuvres de sa première jeunesse, voilà, où il cherche la manière, et en fait on se rend compte qu'il est beaucoup influencé par un 18e, très léger, qui n'est pas ce qu'on attend d'être très bonu, par exemple, ce début de sa carrière, et puis les œuvres de la fin. J'exclus volontairement les grands chefs-d'œuvre, hein, ces grandes figures de paysans. Les œuvres de la fin qui sont très étonnantes parce qu'il est donc à la... crépuscule de sa vie, et il y a une dimension fantastique qui intervient dans ces tableaux. Aussi beaucoup la réminiscence de son enfance dans le Cotentin, auquel il est toujours resté très attaché, et ça produit des œuvres extrêmement originales. Et notamment la dernière œuvre de l'exposition, qui s'appelle « Les dénicheurs de nids », qui est en fait à la fois une scène réaliste, hein, c'est-à-dire ce sont de jeunes garçons et qui chassent de nuit à la torche des oiseaux, donc qui était une pratique assez habituelle au XIXe siècle, mais en fait il en fait une sorte de danse macabre, de danse très étrange à la lumière de torches, et c'est un tableau très très fascinant, et voilà, c'est probablement une œuvre qui pourrait beaucoup beaucoup surprendre les visiteurs.
Donc vous serez chargé de rassembler ces œuvres et de les décoder pour nous. Peut-être cette œuvre dont vous venez de parler, c'est celle qui vous a le plus ému ?
Oui, c'est une des œuvres qui m'a... Il y a deux œuvres de Millet qui m'ont toujours beaucoup, beaucoup marqué depuis très, très longtemps. Donc, c'est Les dénicheurs de nids dont je viens de parler. Et Le printemps, qui est une scène de, voilà, une sorte de verger à l'orée d'un bois et paysan tout petit qu'on voit à l'arrière-plan qui s'abrite sous un pommier. Et puis, cet immense arc-en-ciel qui traverse et qui donne une lumière presque surnaturelle. Voilà, ces tableaux-là, qui sont tous des tableaux de la fin de sa vie, au début des années 1870... ont vraiment une dimension presque fantastique, mystérieuse, et qui dépasse, qui font comprendre qu'en réalité, Millet n'est pas un peintre réaliste, c'est un peintre qui va vers l'universel. Hein, et donc c'est ça qui, oui, moi, m'émeut dans la peinture de Millet, et qui est beaucoup moins connu, une part de son œuvre beaucoup moins connue que ses grandes figures de Sommer, de Vanneur ou de Silla.
Voilà, donc on a dit tout à l'heure, un musée sont des collections, c'est des expositions, puis c'est aussi, ce sont des animations.
Oui, puisqu'on aura donc autour de ces deux expositions, Millet et Millet USA, nous aurons une programmation d'événements, d'animations, un cycle de conférences avec quelques grands spécialistes de Millet, mais aussi des ciné-concerts autour d'œuvres de films qui sont inspirés par Millet, hein, l'Aurore de Murnau, notamment, voilà, des dîners gastronomiques, voilà, toutes sortes d'animations qui vont jalonner cette saison que je qualifie parfois de grandeur nature, cette saison Millet.
Avec une carte passe qui peut faciliter les choses.
Oui, pour voilà, ceux qui souhaitent disposer d'un outil qui leur permet de venir autant de fois qu'ils le souhaitent au musée, nous avons créé un pass PBA+, et qui permet pour une somme modique, hein, 20 euros si on a plus de 30 ans, 9 euros si on a moins de 30 ans, d'accéder en illimité à l'ensemble du musée. Donc c'est vraiment open museum. Le musée est entièrement ouvert, voilà, pendant une période d'un an. Et j'allais dire, c'est le musée à consommer sans modération.
Voilà, merci beaucoup et bonne rentrée au Palais des Beaux-Arts de Lille.
Merci, au revoir.